et bienvenue dans La Quotidienne. Nous sommes aujourd'hui Michel Saint-Pierre, mon co-animateur.
Bonjour,
pour cette dernière quotidienne dans les studios de La Vie Agricole de 2023, bien sûr. Nous sommes aujourd'hui avec un invité que tu connais bien, Jean-Marie Cerroni, qui est en France.
Oui, invité, c'est un ami, c'est autre chose.
Ça. Oui, Jean-Marie, qu'on a bien connu tout au long de l'année 2021 et 2022 régulièrement dans l'émission, mais qu'on a très bien connu en fait par la suite, puisqu'on a fait cette fameuse mission en France avec Jean-Marie.
Je pense que je lui dois encore des gros remerciements. Jean-Marie a été, plus qu'un guide. Il a préparé tout ça, il a préparé notre mission. Il nous a fait rencontrer des gens formidables, des entreprises qu'on a visitées, et même l'ostériculture. On a même passé une belle demi-journée dans le domaine des huîtres sur la côte normande. Alors, ça fut... une belle
On a même pu pique-niquer à côté des parcs à huîtres.
Oui, effectivement. Et on en a mangé aussi.
Et une visite des cimetières, visite des cimetières aussi de la Seconde Guerre mondiale, en fait, qui a impressionné pas mal de monde qui était avec nous, entre autres Luc Boivin, qui était particulièrement touché lors des visites des cimetières. Et d'ailleurs, en parlant des fromagers, Luc Boivin, Pascal Desilets et Roger Bergeon, qui étaient avec nous dans cette mission, tu sais que cette mission, elle a enclenché une idée que les trois transformateurs m'avaient poussé en disant, puisque tu as fait une série sur l'agriculture en 2020 à ma TV, pourquoi tu n'en ferais pas une spécifiquement sur les fromageries du Québec? On s'est attelé à ça en rentrant de la mission et on l'a réalisé cet été. Donc il y a 8 épisodes actuellement qui sont en onde, qui sont des émissions sur les fromageries du Québec. Et c'est né pendant notre semaine avec toi, Jean-Marie, au cours des discussions.
Ça a beaucoup alimenté, en tout cas, notre questionnement, notre réflexion sur le fromage. Et puis... les exemples qu'ils ont vus d'entreprises et de liens entre la production plus spécifique que chez nous et le produit fini, c'est certainement quelque chose qui va marquer là, pour les prochaines années.
Alors, en parlant de ma TV, on va y revenir tout à l'heure parce qu'on va t'annoncer quelque chose. Mais pour ce qui est de l'actualité en France, parce qu'en fait, nous, on aime bien te parler parce qu'on sait que de l'autre côté, tu suis en fait la vie politique et agricole de la France et de l'Europe. On a tous vu que les inondations ont surtout touché le Nord-Pas-de-Calais en France. C'est un sujet qui a été très présent aussi ici au Québec. Il y a eu beaucoup de problèmes d'inondations l'été dernier. Je dirais que la température est un peu particulière puisqu'on est on est quand même le 19 décembre, et il n'y a pas de neige à Québec. Donc, il a tellement plu cette semaine qu'il
n'y en a plus.
On est revenu sur la pluie.
Il y en avait.
Je me crois en Normandie.
Depuis un mois, il y avait de la neige. Oui, c'est ça le problème. Oui.
Il y a eu de la neige depuis un mois.
Il y a eu de la neige pendant le dernier mois presque, et puis depuis deux jours, tout a fondu.
Du côté...
c'est pas habituel.
Non. C'est pas du tout habituel. Non. Du côté de la France, au niveau des inondations, j'imagine que ça a eu des impacts sur plusieurs cultures en fait, dans le nord de la France.
Ah oui, il y a eu des impacts. Il y a eu des impacts en élevage. Parce qu'il y a eu des inondations, puis il y a aussi une grosse tempête qui fait qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont restées plus d'une semaine sans électricité. Ce qui, pour des particuliers, est embêtant. Pour des éleveurs laitiers, c'est une catastrophe.
Oui, avec la gestion des
chaptels. Il y en a qui ont des groupes électrogènes. Il y en a qui sont fait aider par des voisins. Enfin, il y a une solidarité, mais c'est compliqué.
Oh là là, oui. On a perdu la main là-dessus, hein, je pense, un peu.
Un peu. On a perdu la main?
Dans oui, dans le sens de traire des vaches.
Ah, de traire des vaches!
sans électricité.
Ah oui, on a perdu la main, il faut traire à la main.
Oui, oui.
Mais bon, quand tu as une centaine de vaches, c'est quand même...
Oui,
quand tu as fini la dernière, tu recommences la première pour la deuxième traite.
C'est pour ça que je disais ça. Là.
D'où l'importance ici des robots Lely, entre autres. Hein. C'est pour ça qu'on fait appel à eux.
Oui, absolument. Mm-hmm.
Pour ce qui est de la principale information que nous, on a notée dans les dernières semaines, qui est venue jusqu'ici quand même, mais que j'aimerais que tu nous expliques un peu, parce que en tant qu'agroéconomiste, tu suis ça d'assez près en général. On savait que le glyphosate, qui est décrié par plusieurs, qui est aimé par d'autres, parce qu'en fait, il permet quand même de de nettoyer les champs d'une certaine façon. Il y a toujours ce fameux débat qui revient continuellement. Puis on se rappellera que Emmanuel Macron avait dit en 2017 qu'il mettrait fin au glyphosate en 3 ans. Finalement, ça ne s'est pas fait parce que lui-même, arrivé au pouvoir, il a parlé avec des producteurs de grandes cultures. Il a compris que ça ne pouvait pas se faire en 3 ans parce qu'il n'y avait pas de produit de remplacement. Et là, on a appris qu'en Europe, ça a été voté pour les 10 prochaines années, il y aura le droit de mettre du glyphosate. Et je crois avoir compris que ni la France, ni l'Allemagne, ni la France, ni l'Italie n'avaient voté d'ailleurs. Je pense qu'on a fait attention de ne pas se positionner ni pour ni contre. De tout en même temps, comme faisait faire Macron, c'est ça?
Alors, c'est ça. Alors, sur le fond du glyphosate, on sait tous, hein, le glyphosate est un produit qui est très simple, très efficace et qui coûte pas cher. Donc, c'est pour ça que c'est l'herbicide le plus utilisé dans le monde. Après, sa toxicité, elle est extrêmement controversée. Hein. Les agences européennes considèrent que, bien utilisé, il n'y a pas d'effet dangereux. Aujourd'hui, il y a une agence internationale qui considère que c'est un cancérigène probable. Donc il y a des débats dans tous les sens. Je ne sais pas s'il y a la même chose chez vous. Enfin, on sait que vous traitez les lentilles au glyphosate pour les faire accélérer la dessiccation. Alors, ça c'est sur le fond. Sur la forme, c'est assez subtil et très, très politicien ce qui s'est passé. Le glyphosate doit être autorisé au niveau européen. Et cette autorisation a une durée dans le temps et elle était à échéance du 15 décembre. Donc, il fallait que l'Union européenne se prononce sur l'autorisation, le prolongement de l'autorisation. Je crois qu'il faut la majorité des 2/3 au niveau du Conseil européen, dans un sens ou dans l'autre. 2/3 qui soient pour, 2/3 qui soient contre. Et si on n'est dans aucun des cas de figure, c'est la Commission européenne qui décide seule. C'est l'administration de la Direction générale de l'agriculture qui décide.
Et là, est-ce que la décision s'est prise par la Commission?
Et voilà. Et donc, il y a eu un premier vote sur lequel il n'y a pas eu de majorité, mais ça, les Européens le savaient, et les responsables le savaient. Et il y a l'Allemagne, la France, qui sont quand même les deux plus grands pays agricoles de l'Union européenne en volume, l'Italie, la France, l'Allemagne et l'Italie, c'est quand même 3 des 6 pays fondateurs de l'Union européenne, de la politique agricole commune. Donc, se sont abstenus.
J'imagine qu'il y a des raisons à ça. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas de produit de remplacement.
En fait, ils se sont abstenus. Après, il y a eu une quinzaine de jours après, un deuxième vote. Ça, c'était ce qu'il fallait. Il n'y a toujours pas une majorité. Et donc, la Commission a décidé pour. Après, maintenant, je fais mon analyse. Ça, ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est les faits. L'analyse. Tout le monde savait que la Commission européenne, sa recommandation, c'était l'autorisation, considérant qu'en fait, ce n'était pas dangereux. Je ne connais pas très bien la position allemande, mais ce que je sais, ce que j'ai lu, c'est que la France et l'Allemagne s'étaient concertées. À eux deux, ils avaient une minorité, puisque c'est pondéré par le vote est pondéré par le nombre de personnes du pays. Et la France était pour la reconduction du glyphosate, malgré ce qu'avait dit le président de la République, il avait parlé un peu vite. Le glyphosate est utile quand on ne laboure pas. On n'a pas trop de solutions quand on ne laboure pas, dans ce qu'on appelle les techniques culturales simplifiées, qui sont favorables à l'environnement, puisqu'elles protègent le sol. Pour désherber, c'est embêtant, donc ils utilisent du glyphosate. Alors on essaie d'avoir des itinéraires qui permettent de l'éviter, mais c'est compliqué. Donc la France ne voulait pas une interdiction pure et simple. La France demandait une autorisation, par contre une autorisation sous contrôle, avec des limites. C'est pour ça qu'elle n'a pas voté pour. Okay. Et en fait, sur le fond, ils savaient qu'en s'abstenant, il n'y aurait pas de majorité, et ils savaient que l'Union européenne voterait pour. Donc ça permet au président et au ministre français d'avoir la reconduction du glyphosate sans, vis-à-vis de l'opinion écologiste, se mettre le monde à dos. Ce n'est pas nous qui avons décidé, c'est l'Europe.
Est-ce qu'on peut aussi relier ça aux restrictions environnementales qu'on retrouve un peu partout? Parce que j'ai écouté cette semaine dans C'est dans l'air sur TV5, il y avait une émission en fait sur la montée des ultra-droites un peu partout en fait en Europe. Il faisait le lien en fait en disant en fait qu'aux Pays-Bas, la raison pourquoi l'ultra-droite montait, c'est parce que ça touchait de plus en plus de gens. Ça incluait les agriculteurs, mais pas seulement, de tous les gens du monde rural, qui en fait commençaient à être un petit peu écœurés de toutes les restrictions environnementales qui leur étaient imposées, que ça soit lié justement aux cultures qu'ils doivent faire, que ce soit à l'utilisation de leur voiture, de leur tracteur, de leur pick-up, etc. Et que ça faisait partie du... Et donc est-ce que finalement les gouvernements qui sont en place en Europe craignent ça aussi et ne veulent pas aller trop vite dans les restrictions environnementales?
Qu'en France, le gouvernement aujourd'hui craignent une forte poussée de l'extrême droite, du Rassemblement national. Tous les sondages indiquent aujourd'hui, on va voter pour les élections, on renouvelle le Parlement européen au mois de juin de l'année prochaine, donc dans 6 mois. Mm-hmm. Tous les sondages donnent le Rassemblement national largement devant. Premier parti de France et groupe de députés européens français le plus important. Donc on est nous aussi. Donc en Italie, Madame Meloni, c'est quelqu'un qui est très proche de l'extrême droite. Aux Pays-Bas, je ne sais pas exactement où j'en suis dans la formation du gouvernement, parce que le rassemblement à l'extrême droite est arrivé devant, mais apparemment pas suffisamment pour pouvoir gouverner seul. Donc il faut qu'il y ait des coalitions. Donc il y a des tractations dans tous les sens. Mais il y a des poussées effectivement d'extrême droite. C'est le cas. Alors en Pologne, c'était le contraire, puisqu'il y a eu une bascule dans l'autre sens. Alors ce qui s'est passé aux Pays-Bas, c'est que le gouvernement a voulu baisser les nitrates, parce qu'ils ne respectaient pas leurs engagements en matière de nitrates. Mmh. Et pour ce faire, ils ont décidé d'acheter des fermes, en gros, pour les détruire. Okay. Pour baisser le nombre d'animaux et baisser les nitrates. Et ça a mis le feu au monde agricole. Et derrière, ça a été récupéré par l'extrême droite. Et effectivement, il y a un mouvement anti-européen, ça c'est clair. Hein. Mmh.
Concernant les actualités agricoles françaises, ce serait quoi les sujets majeurs actuellement qui se discutent en fait?
Alors, les sujets, comment dire? Il y a deux choses. Mmh. Il y a une situation française qui est très politique française, qu'on n'a jamais connue, qui est très particulière aujourd'hui. C'est-à-dire que le gouvernement n'arrive plus à faire passer de loi. En Marche n'a pas la majorité, mmh, et donc doit négocier avec le Rassemblement de gauche, qu'on appelle la NUPES, qui sont les écologistes, le Parti socialiste et le Parti communiste, même s'ils sont en train de se séparer les uns les autres.
C'est un petit peu implosé, c'est la NUPES.
Voilà, et les Républicains, et puis le Rassemblement national avec lequel le gouvernement ne négocie pas, mais qui a un nombre important de députés. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, le gouvernement arrive à faire passer les lois budgétaires, puisque dans notre Constitution, il y a ce qu'on appelle l'article 49.3, qui permet en gros au gouvernement de... Quand le gouvernement agite le 49.3, c'est en gros, il dit, soit vous renversez le gouvernement, enfin, si vous ne renversez pas le gouvernement, la loi est adoptée sans amendement. Et ils ont le droit de le faire pour les questions budgétaires, pour pas que le budget soit bloqué. Et autrement, ils ont le droit de le faire, je crois, une fois par an. Donc, l'action du gouvernement... Et c'est important par rapport à la loi agricole. L'action du gouvernement est complètement neutralisée aujourd'hui au plan législatif. Et on est en plein dedans. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça s'est terminé. Cette semaine, enfin la semaine qui vient de s'écouler, il y a une loi sur l'immigration que le gouvernement a proposée et qu'il a essayé de négocier avec les Républicains, donc avec la droite parlementaire. Et en fait, il y a eu une motion de rejet qui a été votée, et cette motion de rejet, elle a été votée par la gauche, par le Rassemblement national, donc c'est la première fois qu'ils votent ensemble, et par une partie des Républicains. Donc il y a une espèce de digue qui s'est effondrée, où les gens, il y a des partis qui ont accepté de voter avec le Front National.
Et cet éclatement, qu'est-ce que ça a dit au niveau de la loi sur l'orientation agricole ?
Eh bien, c'est bien que le ministre, il a peur, et la loi, elle est reportée. Donc là, dernière nouvelle, elle serait déposée, je crois que ça fait plus de 6 ou 8 mois que c'est reporté. Donc là, elle serait déposée mi-janvier, mais c'est une loi, je crois, avec 9 articles, une loi qui s'est où, en gros, tout ce qui pouvait poser problème a été enlevé. Et le ministre, moi, ce que l'on me dit, je ne le connais pas personnellement, je le serre la main 2-3 fois, mais je ne le connais pas vraiment, mais ce que me disent les gens dans son entourage, c'est qu'il a très peur d'une question politique, et notamment, il était question de mettre dans la loi des articles sur la gestion de l'eau et des articles sur le foncier agricole, ces deux dossiers extraordinairement explosifs politiquement. Donc, alors, ils ont tout enlevé.
De notre côté, Michel, quand il dit le ministre a un petit peu peur, ici on a peur pour d'autres choses. Ici, c'est plus la crise porcine qui fait craindre à tout le monde un petit peu, parce que explique un petit peu la situation dans laquelle on vit actuellement depuis l'été dernier, où l'Institut a sorti ce rapport sur la crise porcine qui met à mal un petit peu le.
Oui, mais il y a peut-être une chose avant, juste au niveau contextuel. La nouvelle agricole n'occupe pas la même place, loin de là, au Québec qu'en France, pour des raisons évidentes, parce que l'agriculture française est toute proportion gardée, beaucoup plus importante au niveau de la société. Le nombre de personnes concernées est plus grand. La production, évidemment, est plus grand. C'est le plus grand pays agricole d'Europe. Donc, c'est un peu normal. Nous, de notre côté, la nouvelle agricole ne fait pas manchette, hein, on peut dire ça. Yannick, qu'on est. Évidemment, nous, on fait exception, là, mais les grands médias ne font pas beaucoup de cas du secteur agricole. Des fois,
un petit peu sur le zonage.
Des fois, un petit peu, oui. Pour ce qui est du porc, par contre, il a occupé de la place au cours de la dernière année. D'une part, on a une industrie porcine qui est extrêmement. Qui est entre les mains à toute fin utile. Pour 80 quelques pourcents d'une même grande organisation coopérative. Et le marché qu'on a développé depuis les années 90 surtout, un marché d'exportation, gros volume, où plus de 2/3, presque le 3/4 de notre production était exportée, États-Unis d'abord, mais aussi Japon, Chine. À une époque, la Russie occupait aussi une place dans notre marché. Et là, le marché chinois s'est refermé. C'est un marché important. Et la Chine, je pense qu'on ne peut plus compter beaucoup sur la Chine dans un temps prévisible, de sorte que le marché était en excès. On a donc proposé des mesures pour fermer certaines fermes porcines. Surtout, ça touchait davantage les indépendants, ceux qui n'étaient pas liés à l'organisation, ce qu'on appelle les intégrés, de sorte que, bon, ça a créé tout un remous au point où, bon, on a jeté un peu la pierre à l'ensemble de l'industrie, mais il faut quand même, revenir à un certain réalisme. C'est un secteur important. C'est le deuxième plus important secteur après le secteur laitier au Québec. Et ce secteur-là doit donc trouver une façon.
C'est pour ça que les politiques sont très prudents quand ils parlent du porc, en fait. Mais c'est là, en fait, où l'Institut est arrivé avec quand même des idées un peu nouvelles en disant c'est peut-être le temps de revoir les programmes de soutien, en fait, à cette filière-là. C'est peut-être le temps de revoir aussi quelle culture on met dans nos champs pour que ce ne soit pas juste du maïs. Donc, disons que la crise a comme amené des ouvertures de réflexion pour l'avenir.
Ça a permis de montrer d'abord que le 2/3 des plus belles, des sols les plus grandes valeurs, les 2/3 sont pour de la production de maïs grain et de soja ici qu'on dit, qui alimente les porcs. Donc, on a pris connaissance, dans le fond, plus récemment, qu'il y a tout un système autour de ça. Et tout ça est né d'un programme de soutien qui favorisait ces productions-là, et ce, depuis 40 ans, sans qu'on le révise. Alors là, c'est là-dessus que nous, on est intervenus en disant, bon, il ne faut pas non plus, via expression, jeter le bébé avec l'eau du bain. L'industrie doit survivre, mais il faut trouver une façon, je pense, de la ramener, d'une part, à l'intérieur d'un marché qui est plus canadien ou nord-américain. ce qui voudrait dire quand même de l'exportation, mais aussi peut-être consacrer à terme des meilleurs sols à d'autres choses et notamment notre garde-manger. Alors, je pense
pour revenir à ce que disait Jean-Marie tout à l'heure, que le ministre de l'Agriculture en France craignait un peu, je peux vous confirmer qu'ici, ça craint aussi un petit peu par rapport au porc, parce que j'étais au congrès de l'UPA la semaine dernière, ni le syndicat n'a parlé de la crise du porc, ni le ministre n'a parlé de la crise du porc. C'est comme un sujet un peu tabou dans le monde agricole actuellement, parce que personne ne veut mettre les pieds dans le plat, je ne dirais pas autre chose, mais on pourrait dire autre chose pour les porcs, mais on ne va pas mettre les pieds dedans, en tout cas. Peut-être dernière chose, Jean-Marie, juste en 2024, est-ce que les nouvelles technologies, c'est quelque chose en France et en Europe qui est pointé un peu, comme je pense au code génétique CRISPR, est-ce que c'est des choses qui commencent à être regardées, ça?
Oui, le CRISPR-Cas9, ce qu'on appelle les New Breeding Technology, la France est absolument pour qu'on autorise ça et donc le différencier des OGM. Ça, c'est la parole officielle du gouvernement français, très, très claire. Les choses cheminent à Bruxelles, mais visiblement, on n'arrivera pas à les autoriser sous le mandat actuel du Parlement européen et de la Commission, puisque la Commission est nommée après en fonction de la composition du gouvernement. Après l'élection du Parlement, donc au mois de juin. Donc, ils considèrent, le processus est très long à Bruxelles, qu'ils n'arriveront pas à terminer les négociations avant le mois de juin. Mais donc, là, c'est une perspective effectivement intéressante. Pour autant, Michel, quand tu disais que l'agriculture chez nous est à la voie du grand public, en fait, les agriculteurs, c'est moins de 2% de la population. Ça doit être 1,5%.
Oui.
Donc, c'est très peu. Mais en même temps, Emmanuel Macron a lancé, au moment du confinement, cette idée de la souveraineté alimentaire, dans laquelle on met tout et n'importe quoi, mais qui a des relents très forts, évidemment, auprès du coq gaulois, la souveraineté. Et on mélange tout sur le terme souveraineté, mais tout le monde en parle. Et le monde agricole, la FNSEA, ont fait un cheval de bataille, y compris pour des questions qui n'ont rien à voir avec la souveraineté. Mais ça fait une espèce de marqueur qui marche bien. Les Français s'intéressent à l'agriculture pour l'alimentation, la nutrition, la santé. Donc ce qui amène effectivement beaucoup de critiques, notamment sur les pesticides. En gros, c'est principalement par rapport à ça que les consommateurs lambda s'intéressent à l'agriculture. Au plan de la profession agricole, il y a aujourd'hui des hommes politiques, des responsables, il y a deux dossiers très lourds tout de suite. Il y a le premier qui est que, en fait, nos importations agricoles ont tendance à augmenter. Ce qui fait dire que notre souveraineté, je pense que c'est pas vrai. Enfin, il y en a qui disent que notre souveraineté est en danger. Donc, je pense que c'est absolument faux. Mais parce qu'en même temps, on exporte. Mais on importe de plus en plus, ce qui veut dire qu'il y a un décalage de plus en plus important entre ce que l'on consomme et ce que l'on produit. On ne mange pas ce que l'on produit.
Ça, c'est comme chez nous aussi.
On ne produit pas ce que l'on mange.
C'est vrai ici aussi.
et donc ça, c'est un vrai. Je trouve que personnellement, c'est un vrai problème. Et on ne produit pas soit en type de production, soit en niveau de qualité. En fait, on exporte de la qualité et on importe du prix, du bas prix. Et on importe aussi du bas prix par rapport à des questions de compétitivité, notamment au sein de l'Union européenne, où on perd la compétitivité. Donc ça, c'est un vrai débat important pour l'avenir. Et le deuxième, c'est que l'agriculture commence à manquer de bras. Et donc, c'est une grosse inquiétude pour l'avenir.
Problème de main-d'œuvre.
Est-ce qu'on aura assez de monde pour produire? Et notamment, l'agriculture va avoir de plus en plus besoin de salariés. Les agriculteurs n'ont pas l'habitude de piloter et de manager des salariés. Tout à l'heure, je prépare une intervention à l'animation d'un séminaire stratégique d'une coopérative laitière dans le nord de la France. Et c'était la grosse question. Comment travailler avec nos adhérents coopérateurs pour que ça devienne de bons employeurs de salariés?
Jean-Marie, ça va être tout le temps qui va nous rester pour aujourd'hui. C'est la fin de la quotidienne. Mais on va se reparler dans 2024, c'est sûr, parce qu'en fait, on a un projet qui se met en place actuellement avec MaTV. Donc, il y aura des émissions dans lesquelles il y aura des experts qui seront invités en duplex. Donc, on te verra la binette en plus. Donc, on t'appellera. Okay. C'est sûr, dans le mois de janvier ou février ou mars, là, on a des projets en route avec ma TV. Et on sera en onde avec Michel à nouveau pour La Quotidienne, qui va devenir une émission d'affaires publiques à la télé. Merci beaucoup à vous tous pour la journée.
Jean-Marie, et passez de bonnes fêtes de Noël.
Bonnes fêtes de Noël, bon début d'année. Et on se reparle en début, mais pour se souhaiter la santé.
OK.
Joyeuses fêtes.
Au revoir, les amis.
Au revoir, c'est Jean-Marie.